Pascal Hébé, bonjour. Donc, vous êtes à Bruxelles pour votre film, donc qui sort le 24 novembre, à savoir On est fait pour s'entendre. Félicitations, je viens d'apprendre à Paris, cartonne, Belle de France aussi. Magnifique ça.
Ouais, bah, ça conforte, c'est encourageant, mais vous savez, je vais vous dire, en réalité, c'est. On est plus quand on traverse 3 ou 4 ans d'écriture, de travail, de financement, de films arrêtés à cause du Covid, de reprise. À l'arrivée de tout ça, on est plus soulagé que heureux. Non, on sera heureux plus tard. Pour l'instant, c'est plus le soulagement qui prédomine.
Alors, on s'était vu au FIF à Namur en 2018, et là, à l'époque, vous m'avez parlé des malentendus que vous étiez en train d'écrire. Malentendus qui finalement jouaient sur un petit peu le quiproquo, la malentendance, et le quiproquo justement qui pouvait résulter de cet handicap. Un titre qui était aussi quand même assez porteur.
Oui, mais alors peut-être qu'il nous enfermait davantage. En réalité, j'aimais bien comme ce film parle de transmission, de notre rapport à l'autre. Je me disais, on est fait pour s'entendre. C'est aussi bien avec entendant et malentendant. Voilà, je veux dire ça m'enfermait un peu moins que les malentendus. Et en réalité, on est fait pour s'entendre était la dernière phrase du film que j'ai coupée au montage parce que quand je lui demande si elle aime parler pendant l'amour et qu'elle me dit pour dire quoi. On se retournait, je lui disais, en effet, pour s'entendre. Je trouvais pas ça un peu trop expliqué, un peu trop appuyé. Et c'est devenu le titre du titre. Le titre du film. Mais c'est vrai que j'ai bien les malentendus, mais ça peut-être ça. Voilà, c'est peut-être moins solaire, moins ouvert. Vous avez trouvé un bon titre, hein, c'est un sport.
Vous êtes un scénariste dans l'âme. Est-ce que vous êtes plus scénariste que réal ou comédien?
Non, c'est vraiment complet. Ah, comédien, c'est encore à part. Mais scénariste. Vous savez, on n'est pas des. Ce qui m'a beaucoup aidé pour aller dans cette démarche de faire un film, c'est lire un bouquin de David Lodge qui s'appelle Ma vie en sourdine. Moi, je trouve que c'est un auteur que j'aime beaucoup, qu'il a mis des mots sur la malentendance qui résonnait très fort pour moi. Mais parce que moi, je lis beaucoup, hein, bah forcément, on est plus souvent seul. Voilà, on profite plus du silence et aussi du texte. Mais c'est vrai que. C'était quoi votre question? C'est pourquoi je pars sur David Lodge? Ah oui, par rapport à là. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, ça c'est un auteur. Moi je serais incapable. Il a mis des mots qui m'ont aidé, qui ont résonné. Moi je serais incapable de ça. Nous on est des bricoleurs de mots. Un scénario c'est qu'un objet de transition. Donc en réalité, quand on écrit, on voit déjà l'image. Donc en fait, entre le scénario et le réel, j'arriverai pas à séparer les deux. Vous voyez?
M'aviez parlé d'une expression, je trouvais ça, mettre la main dans le cambouis. Est-ce que c'est plus facile de mettre la main dans le cambouis pour le scénario des autres que pour le sien?
Oui. Ah oui. Bah, vous savez, toujours, hein, comme dans un couple, hein, on peut vous conseiller quand on a le recul, quand on vit de l'intérieur, on a beau savoir les choses, il faut éprouver, il faut laisser le temps aussi apaiser. On a beau vous le dire que c'est un passage obligé, que vous allez passer par toutes ces étapes, vous avez quand même beaucoup de peine, vous êtes dans la douleur, dans le machin, et puis le temps fait que. Et ben, de la même façon, un scénario, le meilleur compagnon, c'est le temps. Il faut être bien entouré, mais c'est le temps qui vous aide à savoir si vous allez sacrifier ou non la chose, si ça va être bien vécu ou non de couper. Par exemple, mon film, moi j'ai cet avantage-là, c'est que j'ai le sacrifice facile. C'est-à-dire que mon film, c'est un quart d'heure de plus ou 20 minutes, et quand mon producteur, merci beaucoup. Et quand mon producteur a vu le film, il m'a dit c'est formidable, tu enlèves 15 minutes. C'est un uppercut, hein. 15 minutes, quand j'ai passé 3 mois au montage, on dit il est fou, 15 minutes, je sais jamais où je vais les enlever. Le lendemain, j'avais déjà enlevé 20 minutes. En fait, c'est comme si je faisais une belle robe pour aller danser, puis personne ne m'invite, j'ai marre. Là, tu vas me dire, il y a un problème avec ta robe. Ou c'est ta gueule, ou c'est ta robe. C'est ta robe, enlève-la, bordel. Et ben là, je l'ai enlevé. Alors j'ai cet avantage-là, c'est d'aller vite, c'est d'être tout de suite. Mais en réalité, oui, c'est. Il faut avoir ce recul aussi sur les choses qu'on produit et qu'on fait. J'ai pas trop de mal à faire un pas en arrière et sans être dans le sacrifice.
Sacrifice. Hein. Ouais.
Non, c'est parce que je sais aussi écouter depuis que je suis son dingue, mais c'est pareil, j'écoutais avant. Et en fait, c'est indispensable hein, de faire parfois de faire des choix, les bons choix. Et c'est ces choix-là qui vous font avancer. C'est souvent en enlevant hein, plutôt qu'en rajoutant.
Alors, votre personnage, vous disiez au début, il vit dans le déni, un peu comme vous en second temps. Est-ce que finalement c'est plus facile de reconnaître son handicap ou de s'accepter plutôt que finalement d'accepter la réaction des autres face à votre handicap?
Non, je dirais que ce chemin, bah évidemment on est d'abord comme étape on est dans le déni, mais d'abord ce chemin indispensable. Indépendamment de notre handicap, on peut l'adapter à n'importe quelle situation qu'on doit faire entre soi et soi. Hein, c'est comme dans le rapport amoureux, il faut d'abord s'accepter soi, régler ses chapitres à soi, et puis quand on va vers l'autre, et ben, c'est pour une plus-value. C'est pas pour qu'elle comble des trous qu'on n'a pas réussi à combler, c'est pas par peur. Et c'est vrai que d'accepter d'abord son handicap, c'est quelque chose de particulier. Je préfère parler de singularité parce que je suis toujours gêné vraiment de parler de handicap parce que c'est pas la cécité ou de la surdité. Par respect pour ces gens qui sont coupés du monde vraiment, enfin coupés d'une certaine partie du monde, je préfère parler de singularité.
Oui, pour parler plus facilement, par le fait que vous êtes concerné quand même. Hein.
Oui, alors enfin, c'est vrai qu'il y a cette légitimité-là absolue. On va dire que c'est un problème que je connais de l'intérieur, pour le coup. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, je vous dirais franchement, moi, c'est pas un film cathartique. Hein. J'ai toujours dit aux autres que j'entendais moins bien, je suis bien dans ma vie, dans ma tête, donc ça passe. Et pourtant, moi et mon fils avec qui j'habite depuis des années en tête à tête tous les deux, on est comme un vieux couple, il a 20 ans, il continue de me parler de la pièce d'à côté. Pourtant, quand on le dit aux gens, c'est toujours pas compris, entendu. Et pourtant, ça continue pour moi, en étant sincère, parfois à susciter de l'embarras, de la gêne, pas de la honte, hein, j'en suis plus là, mais de l'embarras ou de la gêne, oui. C'est, vous savez, vous faites répéter, l'autre ça s'en agace, vous faites moins répéter, donc vous commencez à vous extraire du cercle social. Et puis parfois, vous n'osez pas dire à la personne que vous n'avez pas entendu la première phrase, et puis si au bout de 6 minutes, vous ne savez toujours pas de quoi on parle, vous n'osez pas lui dire que depuis 5 minutes, elle parle dans le vide. Donc vous êtes embarrassé, gêné. Donc en réalité, ça peut pas être vraiment pleinement assumé et pleinement vécu, parce que il y a quand même cette part de... Vous êtes en décalage parfois, quoi. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être un travail d'équilibriste pour pas passer pour un con, un taré, ou un rabat-joie, ou un mec hautain. C'est particulier. C'est quand même la merde, hein, comme dirait De Gaulle. La naufrage, la vieillesse est un naufrage. Mais j'ai aimé que ce personnage-là, avec Berléand, qui lui dit bah, « Bienvenue chez les vieux » et tout ça. Moi, j'aime bien de parler de... Voilà. Sans que ce soit trop un trip, un égo trip. On parle de notre aussi, voilà, de ma façon de partir en couille, quoi, en gros.
Parler de Léo, il a joué dans vos deux premiers, et ici, non?
Alors non, il voulait, mais il était un peu trop âgé pour intégrer une classe de première. Alors à regret, je connais un moment, et puis c'est marrant parce que vous rappelez son prénom, c'est parce que sur le premier film, il m'avait fait tirer la langue là, pendant 3 mois avant de me dire OK.
Ouais, c'est ça. Petit, et maintenant, c'est l'équipe morte.
Et maintenant, c'est lui dire ah bon, mais vraiment rien pour moi. Et bah bon, tu vois que c'était chouette cette histoire. Il y avait rien, mais il suit l'aventure de près. Il a découvert le film il y a 2 jours, l'avant-première. Oh. Ouais, c'est fou. Et mais pour autant, il venait avec moi parfois sur le tournage. Là, il est venu avec moi passer une journée de promo. Il est toujours pas loin de mon épaule, mais vous voyez, lui, pareil. On me connaît par cœur. On est comme un vieux couple. Et il continue à me parler dans sa barbe, de la pièce voisine. Et vous voyez, et pourtant je fais un film, il vit avec moi. Merde, c'est pas que c'est un secret de famille. C'est pour ça que c'est bizarre que cette histoire-là.
Semble-t-il.
Mais honnêtement, pour faire un film comme ressort dramatique et comique, c'est assez, je trouve, pour parler de notre rapport à l'autre, de communication. Je trouve que c'était génial, quoi. Et d'ailleurs, c'est eux, hein, c'est lui, c'est Léo, entre autres. Et c'est,
qui a attiré votre attention.
Hein. Ouais, et d'ailleurs, il y a un de ses grands frères qui est ici, qui est devenu mon coproducteur, qui est mon beau-fils. On a monté une boîte de prod qui s'appelle Père et Film, en rapport à Père et Fils. Et il fait partie de mes 3 producteurs. C'est aussi lui qui m'a dit, mais putain, mais fais un film là-dessus, quoi. C'est quand même fou ce que tu nous racontes au quotidien, les malentendus. Mm. C'est en les écoutant, hein, eux, hein, finalement, que j'ai passé le cap. Que je me suis dit, bah alors finalement, si ça leur parle, c'est peut-être que c'est pas que mon problème. Et là, je découvre, quand on a fait une 30aine de villes en France, que en fait, c'est complètement universel et qu'en fait, ça touche tout le monde. Et qu'il y a une...
Mais quand on voit les chiffres, c'est vrai que c'est assez perturbant. 466 millions de personnes qui sont atteintes de déficience auditive, 10 millions en France, qui représentent 16% de la population.
C'est énorme.
Ouais.
Le nombre de gens dont j'ai appris qu'ils étaient malentendants, et dans les salles, tous les gens qui parlent, À un moment donné, ça me fatiguait. J'ai dit, bon, attendez, écoutez, je ne suis pas le porte-parole des sourdingues. On peut parler des autres choses du film, mais c'est fou. Tout ce que les gens, en fait, c'est un des mâles du siècle. D'ailleurs, en France, tous les deux mètres, il y a un audioprothésiste, hein, c'est le Graal. Mais oui, c'est fou, mais moi, je ne me suis pas dit, c'est un bon sujet de société. C'était tellement un truc personnel. Quand j'ai lu Lodge, je me dis, bon, bah, si ça me parle, c'est que ça parlera à un autre. Mais j'avais pas anticipé qu'en fait ça devenait un. J'avais fait presque, entre guillemets, sur les réseaux maintenant je lis tous les gens qui viennent voir le film, que ça allait faire œuvre utile. Genre merci d'avoir parlé de ce sujet. C'est pas mal attention, hein. Sinon je mentirais en vous disant que.
Parlez justement des audioprothésistes. En fait, vous avez mentionné que vous avez eu le soutien d'Entendre,
ouais.
Donc qui est une coopérative, plus de 300 centres, j'ai vu en France. D'habitude, un producteur ou un scénariste efface tout ce qui est référence à quelque chose d'existant, etc. Et vous, c'est par reconnaissance par rapport à ce qu'ils vous ont apporté là.
Oui, non, ils m'ont apporté de l'argent.
c'est clair, un bon apport.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais ils m'ont apporté de l'argent.
Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant de mentionner carrément les.
Ouais, c'est vrai, surtout que ça existe vraiment. Alors, les gens peuvent juste dire que c'est un jeu de mots. Ouais. Mais en fait, ça existe. Pour tout vous dire, ils m'ont aidé à financer le film. En fait, ils le savaient pas. Mais moi, je réalisais des pubs pour eux. Mais c'est pas que moi, j'étais un malentendant. Et je réalisais des pubs pour les malentendants pour eux.
Ah,
c'est
la
télé tous les jours. Et un jour, ils ont appris que je voulais faire un film là-dessus. Ils ont pensé que j'avais eu l'idée parce que j'avais fait les pubs. Non, j'ai eu l'idée parce que moi-même, ils savaient pas. En fait, c'est comme un partenariat qui s'est prolongé. Donc, j'étais assez à l'aise avec ça. Mais en réalité, quand on a commencé à préparer le film en financement, c'est un film que j'ai fait en 6 semaines et 3 jours, comme mes deux précédents films. Je les ai fait au pas de charge. J'ai pas eu beaucoup tellement de machin. Je trouve que ça se voit pas du tout. Donc, quand les mecs qui sont arrivés dessus, même si c'est 100 000 balles, pour nous, c'était un.
Important quand même.
Mais c'était une fenêtre pour nous. Enfin, je pouvais faire ma préparation. C'est aussi simple que ça. Hein. Et en plus, l'histoire est assez jolie parce que on avait fait des pubs ensemble, on prolongeait notre partenariat. J'aimais bien continuer. Je travaillais avec eux, ils étaient dans l'échange. Et un jour, j'ai fait une projo que pour eux. Ils étaient 300 dans la salle. Et c'est la première fois de leur vie qu'ils ont vu l'autre côté de la lorgnette, l'autre côté des gens qui étaient équipés toute la journée. Ce que nous, on vit de l'autre côté, ils ne connaissaient pas.
Alors, votre partenaire, un peu au galop, Sandrine Kiberlin, je suis époustouflé par son énergie, son rayonnement, et en même temps, ça ne cache pas sa fragilité. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Ah oui, elle est, voilà, vous l'avez résumé parfaitement. Vous savez, comme elle et Valérie Donzelli, dans la vraie vie, elles sont à la fois solaires et terriennes. Sandrine, elle pense juste. Elle pense toujours au centre, elle pense bien. Elle m'aide à réfléchir dans la vraie vie. On est très proches, et comme actrice, comme c'est un Stradivarius et qu'elle a cette liberté de jeu et de elle est vraiment dans cette liberté absolue d'écoute, et ben quand j'étais devant et derrière, c'est plus facile pour moi de renvoyer la balle à quelqu'un qui élève le niveau, qui tout d'un coup tout est plus facile avec un bon partenaire.
Berléand, pur bonheur. Alors moi j'ai l'impression que plus il avance en âge et plus il devient espiègle.
Oui.
Un 68 ans, vraiment, en plus de ça, le piercing, c'est lui qui a créé son personnage ou c'est vous
qui. C'est la costumière qui m'a fait cette proposition, je rends hommage parce qu'elle a fait un travail formidable. Et lui, il était comme un môme. Dès qu'on lui a mis la boucle d'oreille, les chaussures pointues et le machin, il était beau. Et pour une fois qu'on ne lui faisait pas jouer un espèce de prof comme ça universitaire, il était très content. Mais dans la vraie vie, oui, c'est un sale gosse, quoi. On a fait 2-3 débats, il vient de plus en plus espiègle. Et pareil, quoi. Voilà un mec à qui. On s'est rencontré un soir en Tunisie, il y a très longtemps, où on s'est avoué, nos lâchetés respectives, notre incapacité chronique à dire non. Jusqu'au jour où lui, ça l'a entraîné à faire un film en entier alors qu'il ne voulait pas le faire. Quand on passe une soirée comme ça, voilà, c'est tous ces gens qui sont autour de moi, c'est comme une famille, il n'y en a aucun qui se prend au sérieux. Voilà, ça aurait pu être des acteurs belges, ce qu'on en parlait tout à l'heure.
Alors, votre maman, Marthe Villalonga, également d'origine algérienne, une énergie débordante, 89 piges, c'est incroyable quand même.
Ouais, puis c'est son dernier film. Et puis il fallait la rassurer, mais c'est mon album de famille. C'était comme si je la connaissais déjà, elle ressemble à ma grand-mère. Et puis j'ai aimé l'accompagner pour sa dernière danse, cette dame-là, derrière la caméra. On a passé comme ça une semaine en Normandie, je sais pas, hors du temps avec elle. J'ai accompagné cette femme sur sa dernière aventure. Et je m'en foutais que ce soit sa dernière et que ce soit moi qui l'ai faite. J'ai aimé accompagner cette petite dame avec sa philosophie de vie. Elle pense bien aussi, celle-là.
Parce qu'elle est bien, un grand merci. On rappelle donc On est fait pour s'entendre qui sort en Belgique le 24. Merci à vous.
Merci à vous beaucoup.